Bangladesh Foundation à Dakar. Nous avons aussi de Dakar Mamadou Thiour, journaliste et analyste politique, et un troisième invité qui doit nous rejoindre incessamment. Madame Ba, bonjour.
Bonjour.
Alors, finalement, les médias locaux parlent d'un raz-de-marée pour le PASTEF. Donc, finalement, la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections ne sont pas un pari risqué pour le PASTEF, comme certains le pensaient.
Non, absolument pas. Les élections législatives ont en fait confirmé le choix du peuple le 24 mars dernier de passer.
Un petit souci avec la liaison.
Audio.
On vous entend maintenant, Madame Ba.
D'accord. Non, je disais que l'élection de dimanche a confirmé le choix du peuple de donner les pleins pouvoirs au duo Sonko et Diomaye pour mener le projet de société, pour mettre en œuvre le projet de société qu'ils ont vendu aux Sénégalais, et surtout pour apporter la rupture systémique aussi, qui est le slogan majeur et qui est l'attente d'une grande frange des populations sénégalaises en matière de gouvernance et en matière de réforme économique, en matière de renforcement des institutions de la démocratie, de lutte contre l'impunité, de lutte contre la corruption et pour répondre aux besoins quotidiens des citoyens en matière d'emploi, en matière d'accès aux services sociaux de base. Donc c'est une confirmation et c'est une suite logique qui s'inscrit dans la dynamique actuelle du parti PASTEF auquel semble adhérer une majorité de la population sénégalaise.
Monsieur Thiour, vous avez suivi cette campagne électorale qui a été émaillée de quelques petites bisbilles et maintenant les résultats, on attend les chiffres officiels, mais que pensez-vous de ces derniers événements au Sénégal?
Oui, il faut dire qu'il faut saluer le modèle démocratique sénégalais parce que quand on regarde un peu en Afrique, les élections sont source d'inquiétude. Regardez sur nos voisins mozambicains, là nous avons voté le 24 mars et le 17 novembre, excusez-moi. Donc, et dès le soir, les médias ont remis ça en donnant les tendances. Et ces tendances-là seront effectivement confirmées par les résultats provisoires de la Commission nationale. Il s'agit de recenser ces votes-là et après par le Conseil constitutionnel, à quelques exceptions près. Là, vous parliez à l'entame que le PASTEF a au moins 3/5, mais au dernier des comptes. Au pire des cas, PASTEF aura 130 députés sur les 165, ça veut dire les 4/5, ce qui est une majorité plus que confortable pour faire passer à toutes sortes de lois, parce qu'il faut 99 députés pour les 3/5, c'est 99, là ils sont au pire des cas à 130, entre 130, 131, 132. Ça veut dire que, comme disait Awa, de Diyo, Diomaye et Sonko ont un boulevard devant eux pour faire toutes sortes de réformes. Et les réformes ne manquent pas pour ce nouveau régime-là.
Et on l'évoquait, on évoquait les mesures, les réformes ambitieuses du gouvernement Faye. Et on l'a vu dans le reportage à l'instant, les Sénégalais, les attentes des Sénégalais sont grandes et l'espoir d'une amélioration de la situation économique et de réformes politiques notamment. Les analystes estiment que la création d'un budget répondant à la fois aux besoins des électeurs et au Fonds monétaire international avec lequel le gouvernement est actuellement en pourparlers sera un véritable défi. Ma question est, est-ce que la promesse de réduire le coût de la vie des Sénégalais sera réalisable? Je reste avec vous, M. Thiour.
Oui, il faut dire que juste après les élections, le premier conseil des ministres, le président Passiou Diomaye Faye, a instruit le premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement d'accélérer l'adoption du budget 2025. Parce que là, ils sont en train de travailler le budget qui a été laissé par l'ancien président Macky Sall et qui ne leur permet pas d'avoir de grandes ambitions. Donc là, il y a une course contre la montre parce que là, il faut voter ça avant la fin du mois de décembre pour être dans les délais. Et ce budget-là sera un budget de duo Diomaye Sonko, un budget où ils sont attendus par la jeunesse auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, parce que quand on a vu toutes ces foules qui suivaient la caravane, les meetings de Ousmane Sonko, on sait que ce qu'il attend n'est pas une mince affaire parce que le pays est relativement jeune et qu'il faut aller très vite par rapport au coût de la vie, par rapport à l'emploi des jeunes. Tout ça, c'est des dossiers qui ne sauraient attendre. Et à la limite, il n'y a pas de de trêves qui peuvent être accordées au nouveau régime en place parce que les gens sont impatients de les voir à l'œuvre.
Alors, les autorités ont également promis d'assainir les finances. Un projet trop ambitieux, Madame Ba, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un projet effectivement très ambitieux, mais un projet sur lequel ils sont entendus. Parce que l'un des moyens faibles du régime sortant, c'est justement au niveau des finances publiques. La GABJ, chaque jour qui passe, révèle son lot de scandales. D'ailleurs, ils ont promis demain une conférence de presse pour partager les audits qui ont été conduits depuis leur arrivée sur la gestion du régime sortant. Alors, une très forte demande, c'est sur la question de la réduction des comptes. Une attente sur laquelle ce régime-là est attendu et une attente sur laquelle, sûrement, l'Assemblée nationale qui va être installée très bientôt va répondre en renforçant l'arsenal législatif en matière de gestion des biens publics, mais aussi en matière de répression. Nous avons déjà une commission de lutte contre la corruption qui va sûrement devoir être mise à jour et adaptée par rapport à regarder les faiblesses dont elle a fait montre. Et donc ajuster l'angle de la lutte contre la corruption, mais aussi sur la réduction des comptes. Une des grandes attentes et une des grandes demandes pendant la campagne pour les législatives de la part des citoyens, c'était la mise en place d'une haute cour de justice ou l'activation de la haute cour de justice qui existe déjà. Il faut nommer les juges. Je suis sûre qu'aussi ce sera l'un des premiers jalons qui vont être posés par cette Assemblée nationale. En dehors de ça, comme l'a dit Mamadou, c'est mettre le nouveau budget et la nouvelle architecture budgétaire en corrélation avec le référentiel 2025 et le master plan, c'est-à-dire surtout l'organisation de l'économie nationale à partir des pôles territoires, où l'économie, selon Dioma et son code, doit être plus intravertie maintenant et moins extravertie. J'ai bien aimé une des intervenantes a dit que ce n'est pas l'État de créer des emplois, mais c'est l'État doit créer les conditions pour que les emplois soient créés, mais aussi créer un cadre qui suscite la confiance parce que tout simplement, il y a zéro tolérance pour la corruption et il y a un encadrement pour que les investisseurs puissent être encouragés à investir.
Vous l'avez évoqué, pour revenir sur la reddition des comptes, le Premier ministre a répété que les anciens dirigeants devront rendre des comptes pour les violences politiques de 2021 à 2024 et également pour des faits présumés de corruption. Que répondre à ceux qui pensent qu'il faut tourner la page et privilégier la réconciliation, M. Thiaw?
Oui, cette page sombre de notre histoire ne peut pas être tournée facilement parce qu'il faut qu'on sache qui a tué. On parle de 60 à 80 morts, majoritairement des jeunes. Bien qu'il y ait cette loi d'amnistie qui pose problème, il faut qu'on subisse les responsabilités. Parce qu'on a vu des images, il y a des civils qui étaient armés, il y a eu des hommes en tenue qui étaient armés. Donc même en termes de maintien de l'ordre, c'était disproportionné. Et il est bon, je pense que la vérité et la réconciliation, ça peut se faire après. Mais il faut d'abord subir les responsabilités. Qui a fait quoi? Qui était le donneur d'ordre? Et ça, même jusqu'au président Macky Sall, qui était là et qui aurait pu nous épargner cette passion, parce que là, c'est parti d'une banale affaire de meurtre avec l'affaire Adjissar. Je dis, dans une démocratie en gentleman, on aurait pu faire l'économie de cette affaire-là en se disant que je me place du côté de Macky Sall en me disant que je ne passerai pas par une affaire comme ça pour discréditer mon principal opposant, parce qu'on a vu les répercussions que ça a eu par la suite. Le pays était bloqué pendant 3 ans, l'économie en a souffert et nous tous nous en avons souffert.
Je pense que cette question est liée au projet d'amnistie au Sénégal. Comment convaincre la population que cette loi est dans l'intérêt de la population et non seulement pour le parti, Madame Ba?
Cette loi n'est pas dans l'intérêt de la population et la demande qu'il y a, il y a une très forte demande pour que cette loi-là soit révoquée. Parce que justement, je vous rappelais bien les conditions dans lesquelles cette loi d'amnistie a été adoptée. Et comme l'a dit M. Thiaw, on ne peut pas passer par perte et profit, les assassinats qu'il y a eu, les meurtres, les emprisonnements complètement injustes, les vies qui ont été brisées, les gens qui ont été licenciés. Et on ne peut pas, dans une démocratie, dans une république qui se respecte, de faire de l'arbitraire et puis qu'il n'y ait pas de reddition de comptes. Si on laisse passer, parce que je pense que parmi les ruptures systémiques dont on parle, et dans la demande de la population, c'est cesser l'impunité et poser des jalons très forts pour que plus jamais des choses pareilles ne se reproduisent dans ce pays-là. Et si ce régime-là ne réussit pas, cet exercice-là de lutte contre l'impunité et de poser de nouveaux jalons pour que dans notre arsenal juridique, justement, et dans le comportement de l'administration et de ceux qui ont en charge la défense et la protection des citoyens, je veux parler des forces de défense et de sécurité, il ne doit pas y avoir de possibilité d'avoir autant d'abus, de causer autant de torts et qu'il n'y ait pas dans l'architecture législative, qu'il n'y ait pas dans l'architecture de l'administration des possibilités de protéger les citoyens contre ces abus-là, des pouvoirs qui étaient chargés les protéger et qui étaient chargés de faire avancer justement la justice dans ce pays.
Alors, une autre question cruciale au Sénégal. Le pays continue d'enregistrer des départs massifs de jeunes. Pas plus tard que lundi, la marine sénégalaise a intercepté 119 migrants clandestins. Cela fait près d'un millier de jeunes qui ont été interceptés en moins d'un mois. Le gouvernement est-il réellement en mesure d'inverser cette tendance, Monsieur Thion?
Mais le gouvernement est tenu d'inverser cette tendance parce que sinon, ça va être un échec patent pour Macky Sall qui a dû par les jeunes, parce qu'on a dit que majoritairement...
Mais Macky Sall n'est plus au pouvoir, M. Thion.
Ousmane Sonko, excusez-moi, donc qui a été élu majoritairement par les jeunes. Donc là, même pendant la campagne électorale, il leur a lancé vraiment un appel patriotique pour leur dire restez, nous allons construire ce pays-là. Mais c'est un problème qui est beaucoup plus profond. Le mal a trop duré parce que ça a commencé sous Abdoulaye Wade et les mirages de l'Eldorado européen, surtout espagnol. Les jeunes, avec l'effet des réseaux sociaux, pensent qu'il faut y aller pour réussir. Donc, il faudra peut-être changer de paradigme et leur montrer, surtout par rapport à l'environnement propice pour la création d'emplois, pour l'auto-entrepreneuriat. Ça, il faudra que Diomaye et Sonko aillent très vite par rapport au budget 2025 déjà, pour faire en sorte de fixer les jeunes. Et je pense qu'un secteur comme l'agriculture, ils ont beaucoup insisté là-dessus et d'autres secteurs, pourra permettre à beaucoup de jeunes de trouver de quoi rester au Sénégal et avoir une vie décente.
Et que dit ce scrutin de la démocratie sénégalaise? Je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Laska Sek de Dakar au Sénégal nous dit que le Premier ministre Ousmane Sonko a fait une razzia en rapportant rôle à main la majorité des sièges du Parlement. Il reste maintenant à donner le jour aux promesses en mettant en œuvre le programme Sénégal 2050. Dorénavant, le pouvoir dispose de tous les leviers pour mettre en œuvre son programme. Le peuple sénégalais est très exigeant et attend des résultats probants. Yaou Marcelin Kofi à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous dit que c'est une victoire capitale pour le PASTEF qui pourra enfin mettre à exécution ses réformes car les projets et propositions de loi passeront aisément. L'excellente tenue du scrutin législatif vient confirmer la bonne santé de la démocratie au Sénégal. La réaction d'Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, il nous dit que c'est une meilleure leçon de démocratie que nous enseigne le Sénégal, que la voie ouverte au président Bassirou lui permettant de faire passer des réformes ambitieuses au profit de tout le peuple sénégalais sans distinction aucune. Et voilà, merci pour vos commentaires. On se retrouve après une courte pause pour la suite de ce débat et les commentaires de nos invités. Washington Forum sur VOA Afrique, restez avec nous.
Nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Football B.
Dans des Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience.
connecter et découvrir toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foules B, de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Full Day.
Washington Forum sur VOA Afrique, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous parlons du Sénégal où le parti au pouvoir remporte la majorité parlementaire pour les élections législatives. Des résultats qui ouvrent la voie au président Diomaye Faye pour mener des réformes. Mais quel défi cela représente pour l'opposition? Pour ce débat, je suis avec Awaba, directrice adjointe partenaire réseau à Open Society Foundation à Dakar, et Mamadou Thior, journaliste et analyste politique à Dakar également. Mamadou, quelle place reste-t-il pour une opposition affaiblie dans ce nouveau paysage politique et peut-elle encore jouer un rôle de contre-pouvoir efficace?
Oui, quand on voit le nombre de députés qui reviennent à cette opposition-là après ces élections, c'est quand même très petit parce que on voit entre 30 peut-être 35 députés, c'est peu. Mais il y a quand même des profils de qualité. Par exemple, l'ancien ministre de la Justice, Aïdan Sattal, est dans le lot. L'ancien président de l'Assemblée nationale sortante. Donc, il y a pas mal de profils. Et puis, par rapport à ce qu'on appelle le plus forest, parce que c'est un système qui permet à des petites coalitions, petits partis, d'avoir un seul député. Il y a un ancien ministre du budget. Donc, de ce côté-là, cette opposition-là devra s'affirmer. Mais aussi, le pouvoir ne doit pas trop dormir sur ses lauriers. Parce qu'il faut, dans une démocratie, il faut un pouvoir et une opposition. Et il faut encourager cette opposition-là à exister. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, vous verrez en face le peuple. Et ils ont tout intérêt. Par exemple, il y a un projet qui est en gestation depuis bien des années, depuis Ablaye Watt, depuis le début de la première alternance des années 2000. C'est le projet d'une statue du chef de l'opposition. À chaque fois, on décale ça, mais je pense qu'il est temps que le président Bassirou Diomaye Faye puisse accorder un statut au chef de l'opposition. Comme ça, c'est dans les grandes démocraties. Et sur les grandes décisions, vous consultez. Et ce sera beaucoup plus intéressant quand on voit la physionomie actuelle de l'Assemblée nationale, où l'opposition a une partie congrue. C'est bien d'avoir quelqu'un qui assure le statut de chef de l'opposition et ça, il pourra dialoguer avec lui de temps en temps pour faire avancer notre démocratie.
L'opposition a déjà donné le ton en félicitant le parti au pouvoir pour sa victoire. Madame Ba, on a déjà vu des scènes où les débats à l'Assemblée nationale sénégalaise sont parfois très très houleux. Comment préserver un débat démocratique de qualité lorsque la voix de l'opposition est minorisée?
Moi je pense que ça fait partie aussi des attentes. Le rêve des Sénégalais c'est d'avoir une assemblée qui se respecte, une assemblée qui est digne de son nom, avec des débats de qualité, mais aussi avec une tenue, une certaine tenue. Je pense qu'on a eu à voir de par le passé, surtout avec la législature sortante, des actes, des comportements qui n'honoraient pas l'Assemblée et qui ne reflétaient pas l'envergure de ce que doit être une Assemblée nationale performante. Donc, et c'est ça qui est rassurant dans le fait que parmi les profils que l'on a, on a vraiment des profils très balèze. Et aussi on a aussi bien dans l'opposition que dans la majorité, et c'est ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est qu'on insuffle la rupture. C'est aussi une rupture de la culture politique. Ce qui est bien, je pense, dans ces deux élections que l'on a eues successivement, c'est qu'on voit une recomposition politique. Et moi, cette recomposition-là, j'espère qu'elle sera ancrée dans une nouvelle façon de faire la politique, dans une nouvelle masse de d'hommes et de femmes politiques qui abordent la politique différemment et aussi qui abordent les civilités en matière même d'opposition, en matière d'adversité dans la politique différemment. Respecter les citoyens, et on espère qu'on aura une assemblée justement où il y aura plus de débats de fond, des débats de qualité, des débats d'idées où il y aurait une opposition saine, on aurait une opposition constructive et toute la place sera faite qui devra être faite à cette opposition-là. Aussi petit que soit le nombre, je pense que c'est à la majorité de créer cet espace-là de participation pour cette opposition-là, parce que c'est ça qui est l'attente des citoyens. Les citoyens veulent une démocratie qui est mûre, une démocratie dans laquelle aussi il y a les checks et les balances, où il y a des contre-pouvoirs qui marchent.
Mamadou Tchi, on disait à l'instant que le pouvoir ne devrait pas dormir sur ses lauriers. Mais est-ce que l'opposition va pouvoir se relever de cette défaite, surtout l'ancienne coalition au pouvoir? Madame Bach, je reste avec vous.
Elle a le devoir. Elle doit se relever. C'est normal. Quand on va dans une compétition politique, il y a des gagnants et des perdants. Et tant qu'on décide de rester dans la vie politique, dans la sphère politique, il faut se relever, il faut se reconcilier. Maintenant, ce qu'il y a à faire, moi je pense qu'il faut savoir, il faut apprendre à s'opposer autrement. Ce que l'on a vu pendant les premiers 7 mois ou 8 mois de ce nouveau régime, ce n'est pas cela qu'on attend des oppositions. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'opposition a été sanctionnée, parce qu'elle n'a pas su se montrer être gentleman. Elle n'a pas su se montrer constructive dans l'invective, toujours dans les insultes. En fait, c'est la culture politique que nous a laissé les régimes passés et dont les citoyens ne veulent plus. Et j'espère que cette opposition-là saura justement se reconstituer. On parle d'état de grâce, oui, si elle veut, elle veut donner un état de grâce, mais on ne veut pas de la désinvolture. On ne veut pas un boulevard libre à un pouvoir qui est là, qui a toutes les cartes en main et qui n'a pas en face des hommes et des femmes qui le challenge, qui le défient et qui la poussent jusqu'à ses derniers retranchements, mais dans la civilité, dans une démarche constructive, mettant en avant l'intérêt des citoyens et non la diabolisation et certaines des pratiques que malheureusement on a vues dans le Parlement passé.
Mamadou Tior, apprendre à s'opposer autrement, je me demande comment cela va s'illustrer dans les jours à venir au Sénégal, surtout pour l'opposition.
Mais ça commence par le renouvellement de la classe politique dans l'opposition, parce que voyez-vous, le président Macky Sall a dirigé la liste de sa coalition. Je pense que lui, il doit savoir partir quand on a dirigé un pays pendant 2 mandats. Et là, certains disent que oui, il caresse l'idée de vouloir faire un comeback en 2019. Je trouve que c'est peine perdue. Il faut un renouvellement de la classe politique. Et ça commence par cette opposition-là. Parce que les gens qui ont échoué lors de ces élections législatives doivent assumer les conséquences, écarter, laisser la place à d'autres. Ceux qui sont à l'Assemblée vont jouer leur rôle. Et le pouvoir doit aider cette opposition-là à exister à l'Assemblée nationale. Le pouvoir a tout intérêt à ne pas faire comme Macky Sall l'avait dit durant son règne, que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Quand vous réduisez l'opposition à sa plus simple expression, vous avez en face le peuple avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Donc là, on a vu quand même, même s'ils n'ont pas été élus, on avait 41 listes qui compétissaient pour ces élections locales. Il y a pas mal de bonnes têtes de liste qui ont dit des listes, malheureusement, qui n'ont pas été élues, mais quand même qui augurent peut-être le lendemain meilleur au sein du renouvellement de la classe politique au Sénégal.
Nous avons 30 petites secondes. Le Sénégal est cité un exemple de démocratie dans la sous-région. Comment cela va-t-il s'illustrer dans la politique étrangère du pays dans les mois à venir, Madame Ba?
Moi, je pense que c'est tirer vers le haut le reste du continent, c'est modestement, mais aussi ancrer le panafricanisme, parce que c'est une aussi des grandes promesses de ce régime-là, c'est la souveraineté dans le panafricanisme.
Je vous remercie pour votre intervention, Madame Ba, de Open Society Foundation, et à vous également, Mamadou Tior, depuis Dakar, journaliste et analyste. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission sur VOA Afrique. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h, temps universel, sur VOA Afrique, voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous retrouve à la prochaine fois.